Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mardi, bon début d'après-midi. J'espère que tout se passe bien chez vous. On est à quelques dodos du temps des fêtes. Marianne Paquette pour vous accompagner au cours des 30 prochaines minutes. Et oui, c'est l'émission « C'est bon pour la santé ». Vous êtes sur Canal M. Oui, quelques dodos donc de cette période tant entendue hein, pour différentes raisons, que ce soit les vacances, que ce soit les réunions familiales. Une période aussi qui rime souvent avec des changements dans notre routine. Hein. On fait plus de route, on laisse de côté notre programme d'exercice physique, on a de la visite. Bref, on est occupé et à tout ça s'ajoutent des excès. De la nourriture, hein, je vous le disais, souvent bien plus grasse, bien plus salé et de l'alcool, hein, on n'a plus d'occasion d'en consommer. Pour les personnes diabétiques, ça peut causer un problème, notamment pour la bonne gestion de leur maladie. Comment on peut mieux profiter du temps des fêtes lorsqu'on est diabétique? J'en parlerai tout à l'heure avec Amélie Roy-Fleming, elle qui est diététiste nutritionniste. Et puis, ben, on en parle souvent, vous savez, dans le cadre de cette émission, le vieillissement de la population et l'espérance de vie ont considérablement augmenté dans les dernières années, ici au Québec, mais aussi dans d'autres endroits là, à travers la planète. Et si les personnes aînées vivent plus longtemps en meilleure santé, ben, il y en a aussi, il y a certaines personnes qui ne seront pas autonomes jusqu'à la fin de leur vie, suite, par exemple, aux séquelles d'une maladie. Souvent, lorsqu'une personne est en perte d'autonomie, c'est la famille qui prend la relève, la famille qui va choisir de s'occuper d'une personne âgée ou d'une personne qui n'est pas nécessairement âgée, mais qui est en perte d'autonomie. C'est une responsabilité qui est complexe. Ça nécessite beaucoup d'engagement, beaucoup d'organisation, un investissement de temps, évidemment, parfois souvent d'argent et beaucoup d'investissement sur le plan humain. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe de l'aide pour ces familles-là et j'en parle à l'instant avec Sylvie Place, psychologue, et Caroline Gadori, directrice adjointe, toutes deux au programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées au CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec. Mesdames, bonjour.
Bonjour, Madame Paquette.
Merci d'être là. Sylvie, on vous joint. De quel côté? Vous êtes où?
Moi, je suis à Drummondville. Je suis au centre d'hébergement Frédéric-Georges-Riotte.
Donc, à Drummondville, Sylvie Place, psychologue, et Caroline Gadori?
Oui, je suis également à Drummondville.
Bon, toutes deux à Drummondville. Il fait beau là-bas?
Pas très beau.
Bon, ben ici non plus à Montréal, donc on est quitte, mesdames. Donc, souvent, ben on travaille fort dans la vie, c'est pas nécessairement pour recevoir des prix, mais pour vous, ça a été le cas un petit peu plus tôt cet automne. Donc, vous aviez reçu ce prix Rayonnement 2015 de l'Association des conseils multidisciplinaires du Québec pour ce groupe de ressourcement en famille aux proches du résident ou d'une personne en perte d'autonomie. Un prix, j'imagine, assez important, hein, qui souligne bien les efforts.
En fait, la CMQ, c'est au niveau du réseau de la santé, c'est entre autres un peu le gardien de la qualité des pratiques professionnelles dans le cadre multidisciplinaire. Alors, ils ont souligné le travail du projet groupe de ressourcement, entre autres à cause de la qualité de la pratique qui était inhérente à ce projet et aussi en référence à la collaboration aux différents partenaires là, qui sont impliqués dans ce projet-là.
Mm-hmm. Ce prix-là, à mon sens, souligne les réels besoins des familles, des personnes qui sont en perte d'autonomie. En quoi consistait ce groupe de ressourcement?
Il y a plusieurs années, en fait, nous, notre chef de service nous a demandé, on était une petite équipe psychosociale, de se pencher sur les besoins d'aide à la clientèle de proches aidants. Et on a décidé de faire un programme de conférences, échanges pour les aidants naturels, qu'ils aient un proche tant à domicile qu'en hébergement.
Mm-hmm.
Donc, depuis ce temps, là, on fait les conférences et on a impliqué plusieurs partenaires professionnels, des collègues de l'équipe interdisciplinaire, comme des médecins, infirmières, pharmaciens, des conférenciers de la communauté, du milieu universitaire. Je vous dirais que la semaine dernière, on a des collègues qui ont réalisé la 165e conférence du groupe et qui a tout près de 2600 présences familles là, qui ont été répertoriées depuis le début de l'activité.
Mm-hmm. C'est quoi les besoins de ces familles-là qui accompagnent un proche en perte d'autonomie?
Les besoins sont beaucoup des besoins d'accompagnement, de réassurance. Ils ont besoin d'être soutenus, d'avoir de l'information sur les problématiques qui les touchent, que ce soit de l'information sur les maladies, la maladie cognitive, les services, le répit, comment se comporter aussi face à la maladie.
Oui.
Il y a une multitude de questions, en fait, que les gens nous posent là, en cours de route sur les sujets qui touchent la dynamique, la perte d'autonomie.
Ouais. Est-ce qu'il y a un accompagnement pour ces personnes qui vivraient un deuil aussi, c'est-à-dire le deuil de la personne qu'on a aimée, que ce soit notre père, notre conjoint, plus jamais pareil, c'est-à-dire, bon, en perte d'autonomie suite à une maladie, donc un soutien au deuil de la vie qui ne sera plus jamais la même?
Vous voulez dire le soutien au proche aidant quant à ce deuil-là?
Oui.
Oui, il y a des rencontres individuelles que nous, on fait à notre service et au service de psychologie ou les intervenants sociaux vont faire du support individuel. Les intervenants à domicile aussi vont apporter beaucoup de support quant à cette réalité-là. Effectivement, il y a une identité qui change chez la personne qui perd l'autonomie.
Oui.
La personne était capable de conduire sa voiture, était capable de demeurer chez elle, de prendre des décisions. Tous ces secteurs-là sont souvent touchés chez la personne qui est atteinte de la perte d'autonomie. Alors oui, ils ont besoin beaucoup d'accompagnement à ce niveau-là.
Mm-hmm. Évidemment, il y a différentes causes à la perte d'autonomie. Je me demande, est-ce que ce groupe-là accompagnait seulement des familles d'un proche vieillissant ou aussi également des personnes en perte d'autonomie, mais peut-être un peu plus jeunes?
Ça peut arriver, effectivement, parce que la perte d'autonomie va être causée par non seulement par le grand âge, mais l'évolution de certaines maladies chroniques, les AVC, les démences, les maladies dégénératives. On peut se retrouver aussi avec des gens qui ont été victimes d'un accident et dont la récupération a été très difficile. Donc, oui, il arrive qu'on ait, malgré que notre clientèle est la clientèle âgée, il arrive qu'on ait des personnes plus jeunes là, qui bénéficient des services reliés à la perte d'autonomie.
Est-ce que l'on observe que pour une famille qui aurait un proche plus jeune, c'est plus difficile ou c'est toujours le même niveau de difficulté?
On peut penser que chez la personne âgée, il y a quand même une certaine préparation, une connaissance du processus du vieillissement qui aide la personne. C'est sûr que s'il s'agit d'un accident chez une jeune personne ou un AVC chez une jeune personne, c'est très, très bouleversant pour l'individu lui-même et sa famille. Mais on sait que c'est souvent bousculé par des événements que les proches aidants se retrouvent dans ce rôle-là. Et la préparation est souvent absente de d'une certaine manière.
Et en plus, j'imagine, vient de pair avec ce manque de préparation, le choc aussi.
Oui, on retrouve en fait un processus de deuil qui se déclenche dans le cadre de la perte d'autonomie. Puis dans le processus de deuil, on va retrouver effectivement le choc et les différentes étapes là, du deuil qui vont se vivre.
On le sait, mesdames, l'un des principaux enjeux, je pense, pour les proches aidants, les familles aidantes, c'est le répit. Souvent, ce sont des gens qui vont s'épuiser à soutenir, des gens qui vont parfois tomber malades également, à cause de la fatigue, du stress aussi engendré par l'accompagnement d'un proche qui est en perte d'autonomie. C'est quoi les services pour ces gens-là, pour les aider à mieux soutenir?
Mais en fait, on a plusieurs services qui sont offerts dans la communauté. Souvent, la porte d'entrée, c'est le CLSC via le guichet d'accès gériatrique. Nous, ici à Drummondville, c'est comme ça qu'on fonctionne, mais c'est comme ça dans plusieurs régions au Québec. Les différents services, il y a le centre d'action bénévole, il y a le centre Normand Léveillé, il y a la société Alzheimer, il y a différents budgets aussi qui sont disponibles pour donner une allocation pour permettre d'engager quelqu'un pour du répit gardiennage. Des fois, c'est aussi des allocations ou des services d'aide à l'entretien ménager qui sont disponibles là, pour les proches aidants, pour les soutenir justement là, en lien avec le fait qu'ils sont à la maison et qu'ils doivent soutenir là, 24 heures sur 24 là, cette perte d'autonomie-là.
Mm-hmm. Est-ce que ces services-là, par exemple, sont mentionnés à travers les conférences qui sont offertes?
Oui, effectivement. On tente d'informer les familles sur les services qui sont existants et qui sont judicieux là, dans leur réalité à eux le plus possible. D'ailleurs, on met en contact les familles avec les intervenants. On a aussi une association... l'Association des proches aidants de Drummond, qui sont un organisme communautaire qui sont souvent présents lors des soirées et qui vont informer les familles de leur activité, entre autres. Là.
Mm-hmm. On a beaucoup parlé du proche aidant, de la famille. J'aimerais ça qu'on s'intéresse un petit peu à la personne qui est en perte d'autonomie. Elle aussi, bien sûr, rencontre des difficultés. C'est quoi les impacts sur la santé globale d'un individu qui est en perte d'autonomie?
Les impacts, effectivement, sont nombreux. Ça va toucher souvent l'identité de la personne dans un premier temps. Ouais. La personne se voit comme quelqu'un qui était capable de conduire son auto, de demeurer chez elle, de prendre des décisions. Donc, la perte d'autonomie, en plus de déclencher un processus d'adaptation et de deuil important, va induire chez cette personne-là une sorte de crise d'identité.
Ouais.
En plus d'une désorganisation qui se joue à travers ce processus-là, c'est les deuils de l'autonomie, de l'indépendance, hein, de l'intimité. Aussi, on n'est pas habitué, par exemple, d'avoir des gens qui viennent donner des services à domicile, recevoir un bain.
Mm-hmm.
Alors, on va rencontrer des personnes aidées qui ont une réticence à recevoir de l'aide. Ce qui fait que l'aidant va être confronté pour sa part à travailler la motivation de son proche à cheminer à travers ça.
Oui, c'est une facette à laquelle, j'avoue, je n'avais pas pensé. Et peut-être aussi tout le côté de la culpabilité, de dire « je suis plus capable, il y a quelqu'un qui va venir m'aider pour le ménage, il y a quelqu'un qui va venir m'aider pour tes soins, bon, le bain par exemple ». Et puis voilà, c'est ça la nouvelle réalité. J'imagine qu'il doit y avoir quelque part une bonne communication entre l'aidé et l'aidant.
Oui, bien en fait, il faut que ça soit travaillé si elle n'est pas bonne parce que l'aidant va être confronté à cette réticence-là, comme je vous le disais, et il va avoir un travail d'accompagnement à faire avec son proche pour le faire cheminer dans cette réalité-là,
ouais.
Pour lui faire comprendre les besoins que lui, comme aidant, il a, parce qu'il y a un déséquilibre qui s'installe entre les responsabilités de l'aidant et les besoins de l'aidé qui grandissent, parce que c'est comme les gens nous le disent, c'est comme un engrenage. Au début, ça commence tranquillement, ça augmente, et puis la personne n'est plus capable de soutenir la demande là,
ouais.
qui est au rendez-vous, finalement.
C'est quoi, bon, j'imagine qu'il y en a plusieurs, là, mais la meilleure approche lorsqu'on veut garder, bon, notre proche est en perte d'autonomie, mais on veut garder certaines autonomies, certaines activités qu'il faisait. Est-ce qu'il y a des façons de faire pour garder au minimum notre proche autonome?
Bien, dans le fond, nous, on va encourager les familles à favoriser que leurs proches maintiennent leur capacité résiduelle. dans le sens que, par exemple, il y a les centres de jour qui sont un service externe. Les gens, les personnes âgées vont venir passer une journée. Ils vont recevoir de la stimulation cognitive, de la stimulation socio-occupationnelle. Ils vont faire de la physiothérapie en groupe. Donc, ça va être des bons moyens de favoriser le maintien des capacités.
Ouais.
Et si la personne aussi a perdu des capacités physiques, souvent, elle a encore de l'autonomie psychologique. On va essayer de favoriser qu'elle maintienne cette autonomie-là, on va l'aider à faire des choix, à cheminer dans ses deuils, à prendre des décisions plus éclairées sur sa situation. Ça, c'est dans le cas où la personne a pas d'atteinte cognitive. Dans le cas où la personne a des atteintes cognitives, ben ça va être toute une autre dynamique là qui va s'instaurer. On va utiliser davantage le répit, peut-être, le gardiennage à domicile.
J'imagine qu'il y a beaucoup de cas par cas et vous l'avez dû l'observer dans le cadre du groupe de ressourcement. Chaque famille a son histoire, dépendamment de la maladie ou de la cause qui a entraîné la perte d'autonomie.
Effectivement, c'est assez varié. Pour certains, ce sont vraiment des maladies cognitives ou des maladies dégénératives. Pour d'autres, ça va être une perte d'autonomie qui est reliée au vieillissement ou à un accident. Donc, c'est assez varié.
Oui.
Le profil de nos aidants aussi
est
assez varié. On a des gens au groupe, en général, entre 55 ans et 75 ans, peut-être même un peu plus. Et souvent, ce sont des femmes. À peu près la moitié ont un proche à domicile et les autres ont un proche en résidence. Donc, c'est assez varié là, comme contexte.
Je trouve qu'il est important aussi de mentionner que dans le cadre de ce groupe-là, ce qui est bien, c'est que ça permet de briser l'isolement. Que même si les situations de chacun, de ce que les aidants vivent, est différent, il y a quand même, c'est un lieu d'échange. Les aidants peuvent rencontrer d'autres aidants avec qui ils peuvent échanger et puis qu'ils se rendent compte qu'il y a des similitudes et dans ce qu'ils vivent et juste le fait de pouvoir partager ça avec d'autres personnes, bien souvent, ça leur fait un très grand bien de pouvoir en parler et de voir qu'ils sont pas seuls dans ce processus-là.
C'est quoi la suite pour le groupe de ressourcement en famille et aux proches du résident ou d'une personne en perte d'autonomie? Vous continuez les conférences?
Oui, effectivement. Le prix nous a beaucoup mobilisés dans nos nouveaux défis qui s'en viennent. On continue les conférences, on continue à interpeller nos partenaires qui sont très ouverts et qui répondent très positivement là, à la continuité du projet. Donc, on est au rendez-vous, là, on espère encore pour longtemps. Et puis, on travaille avec les familles qui constituent là, un partenaire essentiel pour nous aux soins et services
certainement.
Qui s'adressent à leurs proches.
Et puis, s'il y a des familles qui nous écoutent, parce que vous savez, Canal M est diffusé partout au Québec, des familles qui nous écoutent et qui disent « Moi, j'aurais envie d'assister à ces conférences-là, de faire partie du groupe », comment elles peuvent le faire?
Bien, elles peuvent nous rejoindre peut-être au numéro de téléphone. Si je peux donner le numéro
Bien sûr.
Téléphone, c'est le 819-477-0527, le poste 66300. Et ils pourront avoir toute l'information relative au groupe, qui est en fait un groupe effectivement très ouvert à de nouveaux participants.
Et juste pour m'éclairer, ce n'est que dans le coin de Drummondville ou vous couvrez d'autres régions?
Nous, on est à Drummondville, on couvre seulement notre région.
Actuellement, je vous dirais qu'avec la création des CIS et des CIS,
oui.
ça nous donne aussi beaucoup un projet comme ça qui vit depuis 20 ans et qu'on constate qu'il est encore vraiment d'actualité, qui répond à des besoins très grands de la population. C'est sûr que ça, avec le prix et la réponse qu'on a des participants, ça nous donne vraiment le goût de poursuivre et de développer davantage à ce qu'il y ait des groupes comme ça qui voient le jour là, ailleurs dans la région Mauricie-Centre-du-Québec.
Sylvie Place, psychologue, et Caroline Gadoury, directrice adjointe du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées du CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec. Encore un grand bravo pour ce prix rayonnement remis par l'Association des conseils multidisciplinaires du Québec. Un joyeux temps des fêtes à vous. Et puis, on souligne encore là, votre grand travail, mesdames. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Mme Paquette.
Au revoir.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Amélie Roy Fleming, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes diététiste, nutritionniste, éducatrice agréée en diabète. Et là, pour nous parler justement de la saine gestion du diabète, notamment pendant la période des fêtes, parce qu'on sait que ça se fait un petit peu différemment peut-être pendant ce moment-là de l'année. Pourquoi, Amélie?
Oui, en fait, étant donné que le diabète, c'est une affaire de... Il faut gérer au quotidien, en fait. Donc, quand la routine est chamboulée par la période des fêtes, ça peut apporter toutes sortes d'implications qui vont faire varier le taux de sucre dans le sang, aussi appelé glycémie. On peut penser notamment à l'horaire des repas qui va être chamboulé. On va peut-être manger plus qu'à l'habitude. Une variation au niveau de l'activité physique aussi. Donc, on peut être plus actif ou encore moins actif puisqu'on est en vacances. Et tout ça va faire varier la glycémie et c'est tout à fait normal.
Oui.
C'est important pour les personnes diabétiques de se donner une plus grande marge de manœuvre durant la période des fêtes. La glycémie va varier beaucoup. Et par contre, cela dit, la personne diabétique, on peut tout de même profiter pleinement des fêtes puis avoir du plaisir avec les amis et la famille.
Oui. Il y a aussi souvent la consommation d'alcool qui est un petit peu plus grande pendant ce moment-là.
Oui, c'est un bon point, important pour tout le monde, mais pour les diabétiques aussi. En fait, les recommandations d'alcool, de consommation d'alcool seraient les mêmes pour les personnes diabétiques que pour la population générale. Il faut garder en tête que, c'est souvent de l'énergie ou des calories en surplus qui pourraient, favoriser une prise de poids. Mais, le point particulier à retenir pour les personnes diabétiques concernant l'alcool, est qu'elle peut causer des hypoglycémies, soit une baisse de sucre, taux de sucre dans le sang. Et chez certaines personnes, en fonction de la médication qu'elles prennent, et cela peut arriver aussi plusieurs heures après avoir consommé de l'alcool.
OK.
Puis les symptômes de l'hypoglycémie, des fois, ça peut ressembler aux mêmes symptômes que ceux qui auraient pris un verre de trop, donc quelqu'un qui serait en état d'ébriété, par exemple. Donc, c'est important, de boire, finalement, d'éviter de boire sur un estomac vide. Donc, de toujours prendre, si c'est du vin, exemple, avec le repas, ou sinon, de s'assurer d'avoir des collations et d'alterner avec de l'eau, évidemment. Là, ça peut être bien pour tout le monde.
Oui. Maintenant, Amélie, est-ce qu'il y a des petites astuces que l'on peut intégrer dans notre routine du temps des fêtes afin de mieux gérer le diabète?
Oui. Idéalement, on essaierait de maintenir le plus possible l'horaire au niveau des repas. On pourrait penser à être stratégique en sautant des repas et en sachant qu'on va manger plus au repas suivant. Cependant, souvent quand on arrive affamé, par exemple, à une réception, on va sans doute manger plus qu'à l'habitude. Et ça va faire varier la glycémie, évidemment. Donc, la première chose, ce serait de respecter l'horaire habituel. L'autre chose, au niveau de la médication pour les personnes diabétiques, en fait, des fois, quand on est pris dans le tourbillon des festivités, des réceptions, des sorties au restaurant, ben, on peut peut-être oublier de prendre la médication alors qu'elle est très importante, évidemment. Donc, il y a toutes sortes de trucs, là. Chaque personne va avoir développé ses trucs pour se rappeler de prendre ses médicaments. Ça peut être une alarme sur le téléphone cellulaire. Ça peut être l'utilisation d'un pilulier, par exemple.
Mm-hmm.
L'autre chose, c'est, bon, faut pas oublier que c'est quand même une période de vacances pour relaxer. Et puis, cela peut se traduire peut-être par l'activité physique, exemple. On peut aller sortir à l'extérieur, jouer avec les enfants. On peut vraiment profiter du moment pour faire des activités qu'on aime. Évidemment, avec toutes ces variations, il faudra que les personnes diabétiques mesurent leur taux de sucre dans le sang, donc leur glycémie, plus souvent. C'est un outil essentiel qui va leur permettre de savoir où ils en sont, de les aider dans les choix alimentaires qu'ils vont faire et peut-être les encourager à sortir prendre une marche.
Mm-hmm. Mm. Est-ce que c'est important, Amélie, d'en parler à la famille? Tu sais, moi, je pense à parfois la timidité d'aller manger chez ma tante, chez grand-maman, puis de ne pas oser dire, ben moi, ça, c'est peut-être pas approprié pour moi. Est-ce que vous pouvez modifier le menu? Est-ce que vous conseillez d'en parler à l'entourage?
Oui, ben des fois, ça peut être facilitant si la personne chez qui on va manger est au courant. En fait, parce qu'on pourrait suggérer, par exemple, à une personne diabétique de demander à l'autre de se servir soi-même. Donc, sans nécessairement que l'autre ait fait un menu adapté, mm-hmm. Bien, au moins si la personne est capable de faire composer son assiette elle-même, elle pourra décider ce qu'elle met dedans. Aussi, le fait que si l'autre sait qu'on est diabétique, exemple, si on a plus faim puis qu'on doit laisser de la nourriture dans l'assiette, mais ce sera peut-être moins gênant de simplement dire qu'on a plus faim puis qu'on va s'arrêter là pour ce repas-là. Bon, l'autre chose, bon, qu'on parlait tout à l'heure pour l'alcool, ben c'est sûr que c'est intéressant que les gens autour sachent qu'on est diabétique. Si on prend un peu d'alcool, comme ça, bon, ils seront capables de distinguer si c'est vraiment la consommation d'alcool ou l'apparition des symptômes de l'hypoglycémie.
Ouais. Et ça justifie les refus. Des fois, on est gêné parfois de dire non, de refuser. On sait que l'autre veut être généreux, veut être accueillant, puis on refuse ce qu'il nous offre. Mais peut-être qu'en mentionnant la maladie, mais ça met les choses au clair pour tout le monde. En terminant, Amélie, est-ce qu'il faut adapter nos recettes?
Ouais, c'est une bonne question. En fait, c'est vrai que les recettes traditionnelles, les tourtières, les ragoûts de pâtes, ça peut être riche en gras. Cependant, comme c'est occasionnel et c'est une fois par année, en fait, j'aurais tendance à porter plus attention à la grosseur des portions consommées. Donc, si on veut goûter à tout, on peut prendre une petite portion de chaque plat et toujours en gardant en tête que les légumes, en fait, devraient occuper une grande place dans l'assiette. Donc, si on participe, exemple, à un repas de type potluck ou qu'on doit apporter quelque chose mm-hmm. chez l'autre, on peut choisir d'apporter quelque chose à base de légumes pour s'assurer qu'il y en
voilà.
ait. C'est bon pour soi, mais c'est bon pour tout le monde.
Et voilà. En fait, il y a moyen d'avoir du plaisir tout de même pendant cette période, même si on est diabétique, oui. Pour en savoir davantage, diabète.qc.ca. Amélie Roy-Fleming, merci beaucoup. Joyeux temps des fêtes à vous.
Merci, pareil.
Bye-bye. Et nous, on se retrouve demain, 14h. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.